VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 4 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, une centaine de partis créent une plateforme commune sur le calendrier d'un retour des civils à la tête du pays.
Au Burkina Faso, des dizaines de terroristes ont été neutralisés en 6 jours, annonce l'état-major des armées.
Appel au prochain président de l'UA, le Sénégalais Macky Sall, pour l'indemnisation des victimes de l'ancien président tchadien, Hissène Habré.
L'ONU ordonne au Niger de suspendre l'expulsion de 8 ex-dignitaires de l'ancien régime Hutu rwandais, qui est responsable du génocide de 1994.
En Libye, le chef de l'autorité électorale, Imad Al-Sayeh, explique sur le report de la présidentielle qui était prévue le 24 décembre.
Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouédraogo et la Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 9 janvier au Cameroun. Pour l'instant, le journal.
En Guinée, une centaine de partis politiques ont créé une plateforme qui va présenter une position commune à la junte au pouvoir sur le calendrier d'un retour des civils à la tête du pays. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Dénommé Collectif des partis politiques ou CPP, la nouvelle coalition a été lancée au cours d'une conférence de presse à Conakry. 128 partis politiques ont adhéré et signé un document de participation. D'après Sélou Dalin Diallo, leader de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Il a ajouté qu'un mémorandum qui va comporter la position du CPP sur le calendrier de la transition sera soumis au Comité national du Rassemblement pour le développement, la junte au pouvoir. La CDAO exige des élections dans les prochains mois en Guinée, théâtre d'un coup d'État militaire en septembre, et réclame un calendrier pour le retour des civils au pouvoir. L'organisation sous-régionale a suspendu la Guinée de ses instances et des sanctions individuelles ont été infligées aux membres de la junte.
Des dizaines de terroristes ont été neutralisés entre le 28 décembre et le 2 janvier lors de diverses opérations militaires dans le nord et le nord-ouest du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'état-major des armées. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, proches du Mali et du Niger, pays également confrontés aux opérations de groupes djihadistes armés.
L'ONU a ordonné au Niger de suspendre sa décision d'expulser 8 anciens dignitaires de l'ex-régime Hutu-Rwandais, responsables du génocide des Tutsis en 1994, jusqu'à une décision définitive sur ce dossier. C'est ce qu'on a appris ce lundi auprès des Nations Unies.
Niamey avait décidé d'expulser, pour raisons diplomatiques, les 8, accueillis en vertu d'un accord de réinstallation au Niger signé avec l'ONU le 15 novembre. 4 de ces 8 Rwandais ont été acquittés par le TPIR et les 4 autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal sur le génocide de Rwandais les avait condamnés.
Des défenseurs des droits de l'homme ont pressé ce lundi le dirigeant sénégalais Macky Sall de mettre à profit la présidence de l'Union africaine qu'il s'apprête à assumer pour débloquer l'indemnisation de milliers de victimes de l'ex-leader tchadien Hissène Habré. Le point avec Eric Manirakiza.
Aucune victime n'a reçu à ce jour un seul centime, a déclaré hier à Dakar Maître Hassan Dioman Diaye, coordinateur des avocats des victimes de Hissène Habré, l'ancien président tchadien. « Monsieur Macky Sall a un second rendez-vous avec l'histoire », a dit Maître Ndiaye, aux côtés des représentants d'organisations de la société civile et de défense des droits humains, après avoir accédé à la présidence en avril 2012 et mis fin en résistance de son pays à la tenue du procès de Hissène Habré au Sénégal. Il doit faire en sorte que les victimes soient indemnisées quand il va exercer la présidence tournante de l'Union africaine cette année. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il avait trouvé refuge au Sénégal après avoir été chassé du pouvoir et a été arrêté, inculpé et jugé par un tribunal spécial sous l'égide de l'Union africaine. Il purgeait sa peine de prison lorsqu'il est mort du Covid en août 2021 à l'âge de 79 ans. Il est enterré au Sénégal.
Libye. En Libye, le directeur de la haute commission électorale, Imad Al-Saeh, s'est expliqué ce lundi devant les députés sur les raisons du report de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 décembre. Il a évoqué de multiples obstacles juridiques, sécuritaires et politiques, Abdelrahman Dia.
Selon le patron de la commission électorale libyenne, les difficultés juridiques nécessitaient un délai plus long car la justice n'a examiné les recours et les appels que sur la forme, pas sur le fond. 24 heures après l'ouverture du dépôt des recours contre les décisions d'exclusion de candidats, 26 recours avaient été déposés, a rappelé M. Saed. Il a par ailleurs dénoncé des cas de fraude, tantôt flagrantes, tantôt cachées et impliquant plus de temps pour être détectés. Sur la sécurisation des bureaux de vote, il a reconnu qu'en dépit d'un plan ambitieux, les autorités se sont heurtées à la réalité du terrain. Il n'est pas plus rassurant quant à la tenue prochaine du scrutin. Devant les députés, M. Saed a admis l'impossibilité d'une élection le 24 janvier tant que les obstacles vont perdurer. L'autorité électorale avait proposé comme nouvelle date le 24 janvier, une proposition rejetée par le Parlement qui dit se pencher sur une nouvelle feuille de route.
En Tunisie, le ministre de l'Intérieur a justifié ce lundi l'arrestation vendredi de Nourdine Biri par des soupçons de terrorisme dans le dossier. Il assure que l'homme fort du parti d'inspiration islamiste Ennahda, hospitalisé parce qu'il refuse toute alimentation et médicaments, est bien traité. Pour rappel, Ennahda est au cœur d'un bras de fer avec le président Kais Saied depuis son coup de force le 25 juillet et sa décision de suspendre le Parlement que ce parti contrôlait depuis une dizaine d'années.
En Égypte, le militant politique égypto-palestinien Rami Shaat, détenu depuis plus de 2 ans, a été libéré, a indiqué ce lundi à l'AFP une source judiciaire. L'homme de 48 ans est une figure de la révolution égyptienne de 2011. Il est le coordonnateur en Égypte du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions qui prône le boycott d'Israël dans la lutte contre l'occupation des territoires palestiniens. Ce fils du dirigeant politique palestinien Nabil Saad est devenu et était détenu depuis juillet 2019 pour avoir voulu fomenter, selon les autorités égyptiennes, des troubles contre l'État. Et puis, l'incendie au Parlement sud-africain au Cap, qui a fait rage pendant 2 jours, semblait maîtrisé mardi matin, affirmé à l'AFP le porte-parole des pompiers de la ville. Le feu était reparti lundi après-midi. Après une accalmie, les pompiers ont lutté dans la soirée avec des vents forts dans la ville portuaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les autorités sanitaires ont autorisé ce lundi l'injection de doses de rappel du vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans et réduit de 6 à 5 mois le délai avant l'injection de cette troisième dose pour toute tranche d'âge.
Face au raz-de-marée du variant Omicron, les députés français ont entamé hier, dans une ambiance houleuse, l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce texte obligera à montrer un certificat vaccinal anti-Covid pour accéder aux activités de loisirs, des hauts restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux.
Washington, la capitale fédérale américaine et les régions environnantes ont subi hier une forte tempête hivernale. La neige a entraîné la fermeture des services fédéraux, des écoles, l'arrêt des bus et de nombreuses perturbations du trafic aérien. John Linden fait le point.
Entre 12 et 30 cm de neige sur la capitale américaine ont annoncé les services météorologiques, plaçant Washington et l'État voisin de Virginie sous alerte. La tempête a balayé une bonne partie de la côte est des États-Unis avec des vents violents et de fortes chutes de neige qui ont entraîné parfois des coupures de courant. Le gouvernement a annoncé la fermeture des services fédéraux à Washington. La ville a par ailleurs annoncé l'arrêt de la circulation des bus et la fermeture des centres de dépistage du COVID-19. De nombreuses écoles ont été fermées dans la région. Des arbres sont tombés sur des lignes haute tension. Au moins 440 000 foyers ont été privés d'électricité en Virginie et 76 000 dans le Maryland. Au moins 2 700 vols aériens ont été annulés hier lundi, après 2 650 vols annulés dimanche et plus de 2 500 vols annulés samedi. La tempête est venue s'ajouter au très contagieux variant Omicron qui empêche de nombreux pilotes et personnels navigant au sol d'aller travailler.
La procureure de l'État de New York, Laetitia James, qui enquête sur une possible fraude fiscale de la Trump Organization, veut entendre l'ancien président Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Jr. selon un document de la Cour suprême de l'État de New York signé par la procureure. Et maintenant, comme promis, Yacouba Ouédraogo et notre page sport.
Bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations commence le dimanche 9 janvier au Cameroun. 6 groupes de 4 ont été constitués pour cette deuxième CAN à 24 équipes. Nous allons vous les présenter tout au long de cette semaine avant le rendez-vous d'ouverture. Ce matin, nous mettons le cap sur le groupe F basé à Limbé et Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Il regroupe la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Bagassi Koura.
Quatrième de la zone Afrique au dernier classement FIFA, côté statistique, la Tunisie apparaît comme l'équipe favorite de cette poule F, basée à Limbé et Bouéa. Amenée par le coach Mondaire Kebayer et le redoutable buteur Wabi Kassri, les Aigles de Carthage peuvent compter sur leurs expériences dans cette compétition, dont leur pays totalise 20 participations et un succès en 2004 à domicile. Les Tunisiens ont aussi à leur avantage un parcours sans faute lors des éliminatoires. 5 victoires en 6 journées. Ils sont la seule équipe à remporter le plus de victoires, des statistiques rassurantes qui n'emballent pas du tout le céréal buteur tunisien Wabi Kassri.
On est le Mali à la dernière Coupe d'Afrique, qui est une très belle équipe, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe et très talentueux. La Mauritanie qu'on a eue pendant les phases de poule avant la Coupe du Monde, et qui est l'équipe accrocheuse, d'ailleurs on s'est fait accrocher là-bas. Et la Gambie, je ne connais pas du tout, donc voilà. Mais après on sait qu'en Afrique, il n'y a pas de favoris, on sait que tout le monde peut battre tout le monde.
Les Aigles de Carthage seront en concurrence directe avec les Aigles maliens, l'autre grosse tête de ce groupe F, contre qui ils disputeront leur premier match le 12 janvier. Le Mali, 12 phases finales de la CAN, c'est une marque du sélectionneur local Mohamed Magasouba, 63 ans, en place depuis septembre 2017. Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers ont reçu un renfort de taille, celui de Yves Bissouma. Le milieu de terrain de l'équipe anglaise de Brighton fait son retour en sélection après une absence depuis 2018 pour des soucis avec la fédération. Autres joueurs maliens en forme, Amadou Aïdara ou encore Diadié Samasekou. En revanche, les Maliens se sont passés de leur imposant attaquant Moussa Marega, qui n'a plus été sélectionné depuis la CAN 2019. Les Aigles voudront surfer sur leur beau parcours en éliminatoire du Mondial 2002 avec leur qualification pour les barrages. Pendant les éliminatoires, les Maliens ont dominé leur groupe, finissant premier avec 13 points devant la Guinée, avec un total de 4 victoires, une défaite et un match nul. Dans ce groupe F, ils joueront la Mauritanie qu'ils connaissent pour avoir pulvérisé les Mourabitounes lors de leur premier match pendant la CAN Égypte 2019. Justement, la Mauritanie fait partie des petits poussés de ce groupe F, jouant sa deuxième CAN d'affilée, mais les Mauritaniens ont un gros avantage, leur insouciance. Face au Mali et à la Tunisie, les Mauritaniens savent bien qu'ils joueront leur avenir dans cette CAN 2021. Mais les garçons du coach français Didier Gomes da Rosa n'ont aucune pression. Ils ont réussi à se tirer d'affaire dans les éliminatoires, finissant deuxième de leur groupe derrière le Maroc avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. L'équipe mauritanienne en pleine progression peut miser sur des joueurs qui se connaissent bien, car évoluant pour la plupart dans le championnat local, la Mauritanie cherche sans doute à se concentrer sur son potentiel adversaire direct, la Gambie, qui boucle le groupe F. Un meilleur positionnement à la troisième place permettra aux Mourabitounes de rêver d'une place de meilleur troisième qualificative pour les huitièmes de finale. Font partie des novices de cette CAN, les Gambiens découvriront une phase finale de CAN pour la première fois cette année au Cameroun. Les Scorpions, comme on les appelle, ont surpris en éliminatoire, finissant premier de leur groupe avec 10 points devant le Gabon, l'autre qualifié du groupe, et la RDC et l'Angola. Cette performance XXL du sélectionneur belge Tom Saint-Fiette et du capitaine Pamodou Diagne fait des Gambiens une équipe à surveiller. Ils ont aussi l'avantage d'évoluer avec de nombreux joueurs locaux peu connus de leurs adversaires. Mais les Scorpions s'attendent sans doute à un apprentissage difficile et peut-être même douloureux face aux Maliens et Tunisiens et l'imprévisible Mauritanien.
Merci Bagassi pour cette présentation du groupe F qui entre en compétition le 12 janvier dans cette CAN Cameroun 2021. C'est ici que se referme cette page spéciale du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la démission dimanche du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok après de nouvelles manifestations de masse. Les analystes estiment que le départ de ce Premier ministre civil est un coup dur à la stabilité politique du pays. Mohamed Youssouf du bureau de la VOA à Nairobi fait le point. Le récit est de Michel Joseph.
Dans une allocution télévisée dimanche, Abdallah Hamdok a annoncé qu'il démissionne pour céder la place à une autre personne et a appelé à un dialogue global pour mettre fin à la crise politique qui secoue le pays depuis 2 ans. Hafez Kabir est un commentateur politique soudanais.
Le Soudan va connaître une nouvelle crise car il y a beaucoup de groupes militaires, il y a beaucoup de groupes politiques et leurs opinions ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de problèmes du côté économique, du côté social, donc nous voulons une nouvelle initiative, une solution globale qui puisse sauver le Soudan.
Pour Kizito Sabala, expert en relations internationales, il est difficile de séparer l'armée de la politique.
The transition in Sudan is very, very difficult.
La transition au Soudan est très difficile. La structure militaire qu'El-Bashir a laissée est une structure très solide. Et pour que le Soudan avance, beaucoup de travail doit être fait pour s'assurer de dissocier l'armée de la politique. C'est un long processus qui prendra beaucoup d'années.
En octobre, des officiers de l'armée ont renversé le gouvernement d'Abdallah Hamdok. Le général Abdel Fattah al-Burhan justifie ce putsch en disant qu'il s'agissait d'empêcher une guerre civile dans le pays. Hamdok a été placé en résidence surveillée. En novembre, il a signé avec les dirigeants militaires un accord que beaucoup de manifestants ont dénoncé et qualifié de trahison. De l'avis de Shakur Nyaketo, journaliste et militant, il faut du sang neuf pour diriger le gouvernement civil.
Les partis politiques sont toujours en conflit. Ils ne sont pas ensemble. Pensant maintenant à réformer leur parti, ils veulent former un front national pour parfaire leur image. Mais ils ne se font pas confiance entre eux. Le public demande un gouvernement civil formé de technocrates, pas de partis politiques.
Les jeunes Soudanais continuent de défiler dans les rues et les manifestations sont systématiquement réprimées. Dimanche, des milliers de personnes sont à nouveau sorties pour exiger que les militaires se retirent de la politique. Selon un comité de médecins, 57 personnes ont été tuées depuis que l'armée a repris le pouvoir en octobre. Le Soudan est à la croisée des chemins et beaucoup craignent un durcissement du régime militaire, d'autant plus que le général Al-Burhan a pris un décret d'urgence accordant les pleins pouvoirs ainsi que l'impunité aux hommes en uniforme.
Au Tchad, le chef de la junte, Mahamat Déby, a dans son traditionnel message à la nation fixé la date du début du dialogue national inclusif au 15 février. La coordination des actions citoyennes qui exige les garanties d'un dialogue sincère dit ne pas être concernée par cette annonce. De N'Djamena, André Kotmadjingar.
Contre toute attente, le chef de la junte militaire au pouvoir, le général Mahamat Idriss Déby, fixe la date du dialogue national au 15 février 2022. Il se félicite des résultats obtenus dans l'organisation des pré-dialogues à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires. À l'issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. C'est le lieu de saluer l'adhésion unanime au principe du dialogue par les forces vives de notre nation. C'est une étape importante franchie dans la marche pour la réconciliation nationale.
Commentaire en privé dans le quartier général de la coordination des actions citoyennes Wakitama qui exige la modification de la charte de transition avant l'organisation de cette consultation politique. Si le conseil militaire de transition persiste dans ses erreurs, il sera seul responsable de tout ce qui adviendra, estime Morba Gilbert, conseiller technique à la dite coordination.
Pour une société qui a connu de conflits et de conflits des décennies durant, nous voulons que nous fassions une transition vers un autre modèle social, un autre modèle politique. Parce que la réconciliation nationale a raté. Assoyons-nous, reposons, construisons la base d'une nouvelle société tchadienne. C'est ça qu'on réclame seulement. Et on a demandé au CMT simplement d'introduire ça dans un engagement de charte, de façon à ce que nous, là, on accorde confiance au projet qu'ils nous présentent. Ils n'en veulent pas. Alors, ils disent qu'ils gèrent la transition et ils ne veulent pas qu'on discute des vraies questions de la transition. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des gars-là. Ils ne sont pas en train de gérer la transition. Ils sont en train de s'ancrer et de s'accaparer du pouvoir politique pour le gérer pour la suite. Donc, moi, je vous dis clairement que le dialogue, là, elle n'aura pas lieu. Ce qui va se passer, c'est le troisième forum du début père prolongé par début fils. Nous sommes tout à fait dans la dictature. Il n'y a rien d'autre à espérer. La seule chose à espérer, c'est que c'est la rue qui va décider de la démocratie.
L'ancien chef de file de l'opposition aujourd'hui, vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif Salih Kebzabou, appelle ses compagnons d'hier à la retenue.
On fait un travail satisfaisant. On l'a fait en notre âme et conscience, avec toute la bonne volonté nécessaire pour qu'on ait un bon dialogue. Et j'en suis vraiment optimiste. Tel qu'on l'a défini dès le départ, c'est un dialogue inclusif. Bien sûr qu'au dialogue, on ne va pas inviter les 15 ou 20 millions de Tchadiens. Il y en a qui vont s'exclure de ce dialogue. Et ça, c'est de leur responsabilité. Et je ne vois pas quelles conditions extraordinaires ils peuvent poser. Il faut qu'eux-mêmes, je pense, se mettent au niveau des autres pour se dire que si 90% des Tchadiens acceptent d'y aller, est-ce que vraiment les 90% des Tchadiens ont tort? Ils sont aveugles, ils ne comprennent rien et que c'est les 10% seulement qui entendent, voient et comprennent plus que les autres.
La date du 15 février 2022 retenue pour le début de ce dialogue est conditionnée par la tenue du pré-dialogue entre gouvernement de transition et politico-militaire prévu pour mi-janvier à Doha au Qatar. André Kodouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Transition encore, au Mali, une dizaine d'organisations politiques ont pour leur part rejeté la proposition de prolonger la transition de 5 ans présentée samedi par le gouvernement à la CEDEAO. Dans son communiqué, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie estime que cette durée viole la charte de la transition. Les assises nationales de décembre ont recommandé une transition de 6 mois à 5 ans. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Bamako Sekou Tangara, directeur de la chaîne Africable.
Bon, on ne peut pas dire que c'est véritablement une surprise, puisqu'au départ, on peut même penser que ce sont plutôt les participants aux assises qui ont fait cette proposition. C'est une fourchette dans l'ensemble, hein, dans pratiquement les 4 ateliers, ils ont eu à proposer comme durée de la transition de 6 mois à 5 ans. Donc, ce sont ces conclusions-là que les autorités de la transition ont acheminées à la CEDEAO. Et bon, 5 ans, 6 mois, on verra dans quelle fourchette la CEDEAO va se mettre pour trancher définitivement cette question.
Et quelles sont les réactions à Bamako? On sait que le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, qui regroupe une dizaine de partis, estime que cette durée viole la charte de la transition.
Oui, le cadre d'échange pour une transition réussie n'y va pas du dos de la cuillère. Hein. Pour lui, c'est un troisième coup d'État. Le fait que les autorités de la transition se servent de ces propositions des ANR pour aller à 5 ans pour le cadre d'échange, c'est un troisième coup d'État après celui contre Ibeka, après celui contre Bandao. Et ils pensent que c'est un troisième coup d'État que la junte veut un septennat, puisque les 5 ans ajoutés déjà aux 18 mois ou 2 ans pour le cadre d'échange, on est en train vraiment de glisser vers l'autocratie, vers la dictature. Et pour le cadre d'échange, c'est une proposition qui ne passe pas du tout.
Alors, c'est vrai que certains à Bamako étaient d'accord sur le principe de donner plus de temps à la transition pour bien organiser des élections et assurer la sécurité, mais est-ce que cette durée de transition ne serait pas un peu trop pour ces mêmes, disons, ces mêmes personnes qui étaient en faveur d'une prolongation de la transition?
Effectivement, hein, c'est le sentiment général. Hein, beaucoup qui avaient souhaité les autorités de la transition au départ pensent qu'on est en train d'aller un tout petit peu vers un glissement. Ils pensent qu'un an, c'est raisonnable, 18 mois, mais de là à vouloir demander 5 ans pour les premiers soutiens de la transition, ce serait trop. Et ils pensent qu'on est en train d'aller vers un glissement de la junte au pouvoir qui veut se maintenir manifestement au pouvoir pour ces observateurs-là.
Le journaliste Sekou Tangara joint à Bamako au Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Le salon de l'électronique de Las Vegas est le plus grand événement technologique de l'année aux États-Unis. Les grandes annonces sur les nouveautés sont généralement faites lors de cet événement phare. Mais les restrictions liées à la crise sanitaire ont poussé de grands intervenants à renoncer à y participer en personne. Et suite à l'augmentation des cas de Covid-19, le salon a été réduit à 3 jours au lieu de 4 auparavant. Un reportage d'Arzuma Compaoré sur place à Las Vegas.
Eh bien, le CES, le salon de l'électronique grand public de Las Vegas, est de retour en présentiel. En vérité, jusqu'à la toute dernière minute, personne ne savait vraiment si les organisateurs allaient maintenir cette option en présentiel ou simplement remettre l'événement en virtuel.
Comme l'année précédente.
Eh bien, ils ont finalement décidé que Omicron, le nouveau variant de Covid qui perturbe le monde entier en ce moment, eh bien, ne gagnera pas la partie. Un peu quand même, parce que la Consumer Technology Association, CTA, un marque déposée qui organise le CES, a annoncé le 31 décembre que le plus grand salon technologique de l'année, eh bien, ne durera finalement que 3 jours au lieu de 4. Le grand patron de la CTA lui-même, Gary Shapiro, a déclaré qu'ils maintiendront l'option en présentiel, mais que tous les participants devraient être vaccinés. Et afin d'atténuer un peu la douleur, ils fournissent même des tests rapides de Covid aux participants et dès l'aéroport.
Nicole Scott travaille avec le site d'information technologique Mobile Geeks.
Le CES, à la base, est un salon professionnel où les entreprises viennent se présenter au monde. Pour beaucoup d'entre elles, en particulier les entreprises américaines, c'est là qu'elles viennent pour trouver du capital risque, rencontrer des journalistes, raconter leur histoire afin de trouver de l'argent. Et une grande partie de cela est difficile à faire virtuellement parce que le rapport signal-bruit est tout simplement trop élevé en ligne.
Quelques stands vides, au total 2200 exposants présenteront des technologies qui vont venir résoudre certains des plus grands problèmes dans les domaines de la santé, de l'énergie, de la mobilité, de l'environnement et bien d'autres encore. L'inscription en ligne au CES est désormais opérationnelle et ça reste l'un des meilleurs moyens pour accéder à plus de 50 sessions de conférences, aux discours principaux et à la possibilité d'entrer en contact avec les exposants au CES. Donc, même si vous êtes à Ouagadougou, à Kinshasa, à Lagos ou à Mogadiscio, vous pouvez quand même assister au plus grand événement technologique du monde. Pour ma part, l'un des meilleurs moments de cette semaine aura lieu ce lundi même. Il s'agit de l'événement médiatique officiel du CES. Plus de 130 exposants proposeront des technologies révolutionnaires que les médias pourront découvrir en exclusivité, eh bien, 2 jours avant l'ouverture du salon. Sans oublier que les premiers produits des lauréats des CES Innovation Awards seront également exposés. Voilà, beaucoup de découvertes passionnantes en perspective. Et Arzuma Compaoré pour VOA Afrique, Las Vegas.
Voilà, ce reportage, rappelons-le, a été réalisé hier lundi sur place par Arzuma Compaoré. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.